Nathalie Watten, elle enseigne à l'Université de Sherbrooke la création littéraire et la littérature. Elle est responsable du groupe de recherche sur l'œuvre d'Anne Hébert, des auteurs les plus importants de la littérature québécoise. Elle coordonne entre autres le projet d'édition critique de l'œuvre, tout en préparant le tome particulier qui est consacré à la poésie de cet auteur, qui est un ouvrage qui est à paraître en 2010. Elle a dirigé ou co-dirigé plusieurs ouvrages sur Anne Hébert, sur l'écriture, la lecture, ainsi que sur la poésie moderne et contemporaine, dont, je cite, « Lyrisme et énonciation lyrique », qui a paru en coédition Nota Bene, Presse Université de Bordeaux en 2006, et « Précarité de Jacques Brault » avec François Hébert aux éditions Nota Bene à Québec en 2008. Elle est également poète, auteure de 3 livres de poésie, dont « Celle qui », qui est apparue aux Herbes Rouges en 2005. Elle a été pendant 7 ans directrice littéraire de la revue Jet d'encre, une revue de création, et elle a publié plusieurs poèmes et nouvelles en revue, et elle écrit actuellement un roman. Donc, Nathalie Watten.
Merci. Alors, si les communications de ce matin ont ramené le futur au présent, comme l'a indiqué Louise Dupré, la mienne rapporte ce futur à plus loin encore, puisque c'est du passé qu'il va s'agir. Et c'est pourquoi j'ai intitulé ma présentation « Le lion de Dresde ». Mon avenir est dans le passé, c'est-à-dire dans la mémoire. Le passé a beaucoup d'avenir, toujours, même s'il ne nous dit pas tout d'un coup. À l'âge de 14 ans, mon père a perdu sa maison et sa ville, lors du bombardement anglo-américain de Dresde en février 1945. On se souviendra que des bombes explosives et incendiaires ont fait plus de 35 000 victimes civiles et ont détruit ce centre européen de la culture et des arts qui s'enorgueillissait d'être la Florence de l'Elbe. Après quelques jours de marche, mon père est arrivé dans le sud de l'Allemagne, en Bavière, avec ses parents. Mais son père, peu après, est remonté à Dresde, par amour pour une femme, du moins c'est ce que comporte la légende familiale. Et peut-être à partir de là, mon père s'est replié sur lui-même, peu capable de revenir sur la Seconde Guerre mondiale, s'est réfugié en son mutisme. Des débordements se chargeaient parfois de nous communiquer ses souffrances. Pour poétiques qu'elles aient été, ses réactions étaient assez imprévisibles. Un 24 décembre au soir, il a fait brusquement irruption dans la cuisine où nous nous trouvions, a fait rouler 2 pneus vers ma mère en lui lançant un tonitruant « Joyeux Noël ». Il s'était avisé ce jour-là que les magasins fermaient à 17 heures et qu'il n'avait pas de cadeau pour elle et qu'elle avait une automobile. C'est tout ce qu'il avait pu trouver. Comme il aimait bien écouter la radio et lire les journaux la nuit, il en profitait pour nous écrire des lettres. C'était une autre façon pour lui, autrement silencieux, de s'adresser à nous. J'ai relu il y a quelques années de très belles choses de lui, jamais affectées, très senties en tout cas. Ainsi, si je paraphrase un peu, me disait-il, pour nourrir les moineaux, il faut lancer un peu de pain aux pigeons, et en plus grande quantité encore, mais en même temps aux moineaux. Un jour que nous le cherchions, il avait la manie de disparaître et d'apparaître. Il nous a appelés des Bahamas, ce qui n'a pas manqué de rendre ma mère furieuse. Ses excentricités, conjuguées aux humeurs de ma mère, faisaient en sorte que nous n'invitions pas trop d'amis à la maison. On avait peur que les autres enfants et leurs parents nous prennent pour des toqués. Partout où il allait pourtant, il insufflait de la bonne humeur et les gens appréciaient sa compagnie. Mais pour ce qui était de revenir sur la guerre, ça non. Se repliait dans son mutisme. Voici le seul témoignage que j'ai pu recueillir de lui. Il revenait du Joux au moment du premier bombardement allié, et faute de pont, il ne savait pas comment rentrer chez lui, et c'est alors qu'il a vu un lion en liberté. Est-ce que c'était vrai? J'ai retrouvé le même récit dans le roman « Dorn ou le musée de l'enfance » de 91 de Robert Walser. Pour en savoir un peu plus sur son passé, il fallait que j'interroge ma grand-mère. Pourquoi avez-vous mis Hitler au pouvoir? Il nous avait promis du travail et une auto par famille. Quand avez-vous appris l'existence des camps de concentration? On le chuchotait en 1944. Pourquoi mon grand-père n'était-il pas à la guerre? Il avait les pieds plats. Mes questions naïves appelaient des réponses très embarrassées. Puis l'ombre du passé s'est épaissie à force de lecture et de voyage, le réel se complexifiait. Le 9 novembre 89, j'ai vu mon père pleurer à l'annonce de la chute du mur de Berlin. Ses larmes exprimaient-elles une déception à l'idée qu'il était trop tard, vu que son père était mort quelques années auparavant et sans avoir vu le mur tomber, ou renvoyait-elle plus simplement un désir de paix et de réunification, sinon d'unité, celle de l'Allemagne, bien sûr, mais de sa propre unité refaite. En dépit de ma curiosité et de mes recherches, je ne le saurai jamais. Car mon père s'en est allé le 9 avril 92, sans s'être réconcilié avec la vie, encore séparé d'elle par un mur. J'ai été très touchée récemment par le film « Le liseur » de Stephen Daldry, et surtout par la scène finale tournée dans un cimetière. J'ai compris que le mur de silence dressé entre le protagoniste Michael Berg et sa fille tenait en grande partie à l'oubli tant du présent que du futur, au profit d'un passé qui ne voulait pas passer et qu'il fallait réparer pourtant. Les réminiscences du protagonisme témoignaient, ici encore, des dommages collatéraux de la guerre et du non-dit des séquelles. Tant d'histoires demandent à être racontées, veulent un futur. Chez moi, l'emmurement du père s'est transformé en honte. Je ne voulais pas que les gens apprennent qu'il faisait partie d'un peuple qui avait mis l'Europe à feu et à sang, sinon le monde, et qui avait fait tant de mal aux Juifs. C'est étrangement la tragédie du Rwanda en 1994, avec ses 800 000 morts, qui m'a quelque peu affranchi de ma culpabilité. Décidément, les êtres humains étaient capables des pires infamies. Et pas plus que les Allemands, les Rwandais des générations à venir ne devraient avoir à porter le poids de la culpabilité des exactions commises. Facile à dire, bien sûr, et ce n'est pas qu'il faille oublier, mais bien plutôt bâtir l'avenir sur cela, ne pas l'occulter dans nos récits. À cette honte s'ajoutaient les souffrances et privations d'une mère, troisième d'une famille canadienne-française de 9 enfants. En lisant une saison dans la vie d'Emmanuel, dans ma vingtaine, j'ai senti que Marie-Claire Blais avait admirablement allégorisé l'aliénation et les désirs mal canalisés de ses enfants aux origines modestes. Ma mère n'était pas plus loquace en définitive, et le silence de mes parents m'a coûté plusieurs années de mélancolie et même de misanthropie. Psychanalyse aussi, mais c'est peu à côté de ce qu'ils n'ont pas dû vivre, faute de repères et de mots. Retrouver la mémoire devint pour moi un devoir filial. Il le fallait, croyais-je encore dans ma trentaine, pour en finir avec le mal-être et la misère, et laisser à ma fille la liberté de s'épanouir en tant qu'individu, sans qu'elle ait à subir l'héritage maléfique. L'avenir, ça a été longtemps ça, et elle, plutôt que moi, et je me suis efforcée de lui donner ce qui m'avait manqué, une enfance apaisée. Mais comme l'écrivait Merleau-Ponty au sujet de l'apport freudien, le destin n'est vrai que rétrospectivement. Le passé est donc malléable, peut-on en inférer ainsi ? Toujours réinterprétable, jamais clos. Entre-temps, la lecture et l'écriture nous apprend à être attentifs aux autres dans un monde complexe qui vaut la peine qu'on s'y risque. Par la puissance de refiguration que possède le langage, les écrivains modernes les plus sombres, ce sont les miens, nous apportent quelques lumières. Dostoïevski, Kafka, Beckett, Sylvia Plath, Paul Celan, Régent Ducharme, Anne Hébert, Jacques Brault, tous, ils ont connu une guerre ou une autre, historique ou psychologique. Comme l'hystérique, le poète, au sens où l'entendent Baudelaire dans les foules et Rimbaud dans une saison en enfer, a la capacité, par le langage, d'être lui-même et autrui. La compassion sauve, à condition de croire, avec Paul Ricoeur, que le travail de la mémoire guérit de l'exaltation et de l'imagination fausse, préserve le souci d'autrui en vertu d'une espérance partagée. Et je cite Ricoeur, « La sollicitude suppose que contre tout pessimisme culturel, je fasse crédit à des ressources de bienveillance. » Fin de la citation. La mémoire ne se réduit pas au passé collectif ou individuel, elle est l'épreuve d'une temporalité et la transmission d'un présent informé par le passé, grevé de rêves et d'espérance. Par le récit que l'humain ne cesse de produire et d'interpréter, elle a quelque chose de prospectif qui ouvre l'avenir. Il en va de même avec les formes, une fois qu'elles ont été créées. Si le travail sur la forme transforme les pertes et les gains des générations successives en lieu de mémoire, et qu'elle fait de nous, à une échelle plus vaste, des migrants et des passeurs, cela ne me dit toujours pas ce que je pense du temps à venir, ni comment je me projette dans le futur. Si l'art et l'architecture préservent la mémoire, c'est aussi parce que les formes procurent un véritable bonheur, dans la mesure où elles attestent d'une présence à travers les âges, comme l'a bien vu Pierre Vadeboncœur, qui écrivait quelques semaines avant sa mort, et je le cite, « Chaque forme est un fragment d'éternité, du fait qu'elle soit chargée de sens. Ce qu'elle dit ne saurait être compris objectivement. Son expression est cependant manifeste et vous atteint d'emblée. » Fin de la citation. Affranchie de la précarité, la forme est soutenue par le principe de la pérennité. On peut le dire de l'architecture de Dresde, même après que la ville a été incendiée. On pourra le dire aussi des pneus de mon père, si un jour, bien sûr, j'ai le talent de le raconter, plus longuement qu'ici, plus tragiquement, plus savoureusement aussi, comme un épisode triste et drôlatique à la fois, indécidablement tel. En guise de post-scriptum, trois variations sur le futur, j'emprunte cette très belle expression à Jean-Pierre Valeton. Si la forme est pérenne, pourquoi tant de souffrances individuelles et collectives de génération en génération? Guidée par le silence de mes parents, plus particulièrement celui de mon père, j'ai eu très jeune le désir de comprendre l'informe pour lui donner forme. Qu'elle soit hystérique ou pas, la parole prend la mesure des pertes par empathie et solidarité nécessaires. Ma chance d'avoir été sensible au malheur d'un être en sa jeunesse brisée m'ouvre le chemin de l'écriture. Deuxième variation. Bernard Raymond, dans son très beau livre d'entretien « La perte et le lien », présente la filiation comme la reconnaissance d'une dette et d'une histoire. Je le cite, « On ne peut pas comprendre les comportements humains sans avoir conscience de l'histoire qui les a créés. » Fin de la citation. L'artiste a la responsabilité de préserver, de reconstruire les liens qui nous redonnent accès, chaque fois, comme un événement d'une grande beauté à la dignité humaine. Je le cite encore, « La valeur de l'art, en tout cas des grandes œuvres, c'est qu'elles transcendent l'ordre du monde. » Fin de la citation. Par ce don fait à l'humanité, l'existence vaut la peine d'être vécue. Troisième variation, la terre promise, c'est l'espérance des terres prochaines. Merci.
Alors, merci Nathalie pour cette, finalement, le thème. L'objet paraît davantage la mémoire au départ, mais on se rend compte que finalement, c'est une mémoire prospective qui permet de... qui s'ouvre sur l'avenir, et je trouve ça très intéressant. On va passer maintenant, si vous voulez, à Frédéric Garicomo. Excusez-moi, je vais... Alors, qui est né au bord de la baie de Népisiguit, en Acadie. Si je lis ici la phrase qui est dans le programme, c'est « À l'âge de 7 ans, il reçoit sa première guitare et sa première machine à écrire. » Alors, c'était la précocité. Il sait déjà que sa vie sera consacrée à la création. Toujours est-il qu'il a beaucoup composé de chansons, c'est un, tout au long de son enfance, et qu'à l'âge de 17 ans, il est devenu membre guitariste et parolier du groupe The Informed. Et c'est à la fin de cette aventure qu'il décide donc de chanter ses propres compositions. Il étudie à l'Université Saint-Thomas de Fredericton en 89 et 90. Et à partir de ce moment-là, se consacre de plus en plus à la poésie. Il publie un premier recueil, je crois que c'est en 91, « Stratagème de mon impatience » aux éditions Personnages. En même temps, durant cette période, s'ouvre un autre volet artistique puisqu'il apprend les techniques de la peinture acrylique dans l'atelier du peintre Guy Duguay à Moncton, qui est la capitale culturelle de l'Acadie. Il rencontre à ce moment-là des écrivains, Gérald Leblanc, Raymond Guy Leblanc, Herménégil Chiasson. Et depuis cette date, il a publié une dizaine de recueils de poèmes. Alors, je les énumère pas tous, mais peut-être en particulier « Ravage » en 1994, qui a été finaliste au prix Émile Nelligan. Et les plus récents, « Naufrage » en 2005, « Aube » en 2007 et « Vérité », tous au pluriel, en 2009. Alors, Frédéric Garicomo.
Merci. «
Le futur serait tel que nous saurons l'imaginer. Néanmoins, la somme de nos appréhensions face à l'avenir donne souvent le vertige. L'une de ces inquiétudes concerne immanquablement la vitesse inhérente à notre mode de vie. Cette croissance exponentielle, étourdissante pour certains, ne semble tendre vers aucune finalité. En tant que poète, je trouve exténuante cette idée selon laquelle le monde entier est voué à obéir à un rythme de vie toujours plus frénétique, toujours plus fragmenté. Éminemment conscient de frôler les limites temporelles de nos capacités humaines dans l'assimilation de l'information, nous sommes engloutis par une mouvance d'images et de paroles interchangeables. Sans cesse sollicités, incapables d'endiguer ce flot, notre vision se brouille devant le flou de ces mirages incessants. Il ne restera bientôt à notre imaginaire assoiffé qu'à sombrer dans l'aridité de ce marasme qui nous accable. Ou, plus simplement, comment communiquerons-nous nos états d'âme lorsque les 140 caractères admis par Twitter nous sembleront trop généreux? Avec des grimaces et des sons gutturaux, voulons-nous vraiment composer des poèmes de primates urbanisés entre deux scanners biométriques? À entendre les propos de certains adhérents à un nouveau mouvement populiste américain, on pourrait presque croire que nous y sommes déjà. Selon moi, il est donc impératif de renouer avec le souffle lent qui donne vie depuis toujours aux poèmes. À chaque époque, l'humain s'est confronté au temps et à l'espace. À chaque époque, le poème et la prière ont su rythmer le jour en lui offrant de petites semences et de silence. Ces oasis temporelles, parsemées ici et là dans le vaste désert sans cesse grandissant des rumeurs fulgurantes, seront peut-être apaisées, un monde se nourrissant d'imprudence véloce et de lumière aveuglante. Nous avons assisté à une certaine recrudescence de l'intérêt pour la versification dans les premières années de notre nouveau siècle, surtout quand elle est libérée des restrictions inhérentes à la page blanche. Elle devient, à travers des formes performatives diverses, que ce soit le rap, le slam ou la théâtralisation à la manière des spectacles récents de Fabrice Lucchini ou de Roberto Benigni, incantatoire et convivial. Le verbe réussit à happer et à bouleverser un public plus important en nombre lorsqu'il prend gorge, la gorge étant le territoire de chasse ancestral du poème. Quand il y a un retour à l'esprit de communion collective lors de la transmission d'une vision poétique, il y a une réception plus large, plus immédiate, plus viscérale. Le poème devient alors prétexte à une prière proche de la transe et fait tournoyer l'imaginaire de chacun comme le nom d'Allah fait tournoyer les derviches. Si, selon la formule d'Alain Bachung, l'homme de demain sera hors norme, c'est justement par le mélange des formes qu'il y aura avènement d'une nouvelle manière d'apprivoiser le monde. Quand ce dernier met en musique le Cantique des Cantiques, quand Jean-Louis Murat chante les fleurs du mal de Baudelaire, ou quand plusieurs chanteurs québécois arpentent l'univers poétique de Gaston Miron au sein du projet 12 hommes rapaillés, il montre la voie qui permettra à la poésie de s'insinuer dans les esprits d'une partie plus importante de la population et d'ainsi rythmer autrement leur jour. Une multiplication d'initiatives de ce genre, une plus grande réciprocité entre les poètes et les artisans du monde du spectacle, serait propice à un rayonnement plus important du poème dans l'espace culturel. Au Québec, le travail de Marcel Pomerleau notamment est particulièrement louable, lui qui a mis en scène des œuvres de Jean-Paul Daou. Il est aussi possible de transformer nos vers en mouvement, comme l'a si bien fait Catherine Lalonde avec son spectacle Musica Nocturna, qui allie danse et poésie par exemple. Alors que les poètes ont souvent tendance à s'isoler, à rester entre eux, l'avenir de la poésie pourrait se trouver dans le métissage et dans le partage, dans l'assouvissement des désirs multiformes du souffle poétique. Le poème doit souffler où il veut, pour paraphraser la devise des éditions du Norvois. Sur un autre plan, le poème nous permet de renouer avec ce que les adeptes de la philosophie zen appellent notre vraie nature, c'est-à-dire cet état d'émerveillement perpétuel proche de l'état naturel d'un nouveau-né. Le poème nous permet également de perdre un peu la raison, d'effleurer la folie. Le philosophe Raphaël Entoven parle de la folie comme étant non pas seulement le langage des exclus, mais le fin mot de l'existence. Il affirme aussi que la folie apprend à aimer le silence, à désirer ce qui ne dure pas, à parler légèrement des choses graves. J'avancerai que le poème arrive à accomplir tout cela et en outre permet de parler gravement des choses légères. Selon Erasme, à mesure que l'homme écarte la folie, il vit de moins en moins. Il en va de même pour la poésie. Le poème est l'espace éveillé où nous pouvons nous permettre de laisser affleurer un certain esprit onirique. Grâce à lui, nous pouvons également renouer avec la racine étymologique du mot comprendre, c'est-à-dire de ne pas exclure. Le rapprochement avec l'altérité étant souvent ce qui anime les vers que nous offrons à l'humanité. Je crois que notre monde a de plus en plus besoin des airs de liberté et de déraison qui sont le propre du poème. L'acte poétique et son partage pourraient devenir des remparts contre une certaine démesure de la raison, selon la formule de François Heureau et Roger-Paul Droit. Des bombes sur nos esprits assiégés par le mercantilisme exacerbé de notre époque. Il est donc d'une importance capitale d'inclure l'apprentissage de cet espace de liberté et d'altérité temporelle dans les curriculums de nos lieux d'enseignement, afin de donner accès à une vision du monde moins circonscrite et à des pistes permettant d'errer dans l'imaginaire et d'éviter à ceux qui nous suivront de devenir perpétuellement prisonniers d'un univers sans folie. Imaginons ensemble un monde où tous partiraient à la recherche de l'autre, de ce qui l'anime profondément, armé de poèmes comme Diogène de sa seule lanterne. Imaginons des bibliothèques de poésie dans tous les lieux transitoires, dans toutes les gares et les aérogares. Imaginons parsemés dans les villes des capsules où l'on pourrait entendre les voix de poètes qui ont su définir chacun de ces espaces urbains. À Lisbonne, la voix de Fernando Pessoa, à Santiago, celle de Gabriel Mistral, à Moncton, la voix de Gérald Leblanc, à Montréal, celle de Leonard Cohen, à Mexico, la voix d'Octavio Paz, à Damas, celle d'Adonis, à Belfast, la voix de Seamus Heaney, à Buenos Aires, celle de Juan Gelman. Imaginons ensemble un monde où l'emprise impitoyable du temps serait désamorcée par les interstices où nous attend patiemment le poème. Imaginons la lenteur originelle de notre âme et succombons à son appel. Le futur sera tel que nous saurons l'imaginer. Pour ma part, il m'est devenu impossible d'en rêver hors de ce jardin touffu et infini qui réside dans chaque manifestation vibrante de l'univers poétique. Le futur sera tel que nous saurons l'imaginer. Permettons-nous justement de l'inventer en nous arrimant.
Merci Frédéric pour cet éloge d'une poésie métissée qui se diffuserait partout, sur toutes les places. Qui n'en a pas rêvé? Chez tous les poètes, c'est une très bonne idée, n'est-ce pas? Alors, dernière communication de cette rencontre de Sylvia Eugenia Castillero. Alors, je vous la présente brièvement. Elle est née à Mexico où elle vit. Non. Est-ce qu'elle vit? Non, à Guadalajara. Pardon. C'est une... Oui. Elle a étudié en lettres à l'Université de Guadalajara, justement, et a fait des études de doctorat à l'Université de Paris 3. Elle a écrit 4 livres de poèmes, dont je vous cite le nom du dernier, Zooliloquios. Excusez ma prononciation. Oui, c'est ça. Donc, Historia no Natural, qui a été publié en 2004 à Mexico. En 2010, elle fera paraître un autre recueil qui s'appelle Eloisa. Elle a aussi écrit 2 essais, Entre dos silencios, la poesía como experiencia, en 1992, et un autre essai sur El ocio de las formas, aberraciones, en 2008 à Mexico. Elle dirige actuellement la revue littéraire Luvena de l'Université de Guadalajara et elle fait partie d'un groupe, je traduis là, parce que j'ai du mal à lire l'espagnol, mais un groupe de créateurs qui, font partie du Conseil national pour la culture et les arts. C'est ça? Vous me corrigerez si ce n'est pas tout à fait exact. Alors, donc, je vous laisse ma parole.
Merci. Merci, Pierre. La dimension esthétique face au futur. La différence entre la vie humaine et toute autre existence tient, selon Maria Zambrano, au fait que la vie humaine repose dans un argument, une trame développée dans le temps, bornée par une genèse et une apocalypse, par antique et intacte. Mais le temps possède un double cours, le temps qui superpose un événement à un autre, chronos, et le temps qui semble se concentrer en un kairos, comme disait Jorge, à des moments historiques chargés de signification. Le kairos transforme le passé et fait concorder l'origine et la fin. Établit une relation significative entre, d'une part, l'instant vécu, d'autre part, un commencement et une fin distant. Une harmonie entre passé, présent et futur. Trois rêves qui se croisent dans notre esprit. La fin résume toute une structure qu'on ne peut obtenir qu'au moyen des figures, fictions, qui prédisent la partie qui, historiquement, n'a pas été révélée. La fin dépend de l'accord entre le passé imaginativement enregistré et le futur imaginativement prédit. Par conséquent, il est nécessaire de revoir continuellement l'allégorie historique dans la mesure où le temps la prive de toute crédibilité. Cernés par le chaos, nous, les êtres humains, nous tentons de faire concorder les réalités distantes l'une de l'autre. Les commencements éloignés avec la fin imprévisible, à travers un langage humain qui nous offre la possibilité de parler des parties les plus secrètes de la réalité et de donner une signification à l'intervalle entre le tic de la naissance et le tac de la mort. Ce langage se manifeste sous une forme. L'art, et plus précisément la littérature, repose sur cette allégorie ou sur cette trame constituée par une organisation qui humanise le temps en lui donnant forme. Et c'est dans cet espace que se rencontrent les voix humaines, celle de l'auteur et celle du lecteur. L'être humain a alors pour tâche existentielle de base de donner forme à ce futur incertain, forme qui signifie inventer un sens à la vie. Au cœur de ces signes qui nous aident à chercher la vérité, nous trouvons des petits morceaux d'éternité, car c'est dans le domaine de l'imaginaire que s'opèrent les échanges entre le réel et le irréel. L'irréel trouble le réel, et le réel emprisonne le fantastique. L'art est un kairos placé entre le début et la fin. La façon de réunir dans un schéma comment notre perception du présent, notre mémoire du passé et nos attentes pour le futur. L'art, c'est sachant faux, nous dit Kermode, implique la reconnaissance que chaque fois que nous inventons des fictions, nous nous confrontons à nous-mêmes. Et c'est ainsi que nous transformons le monde de façon indirecte. Ni mythe, ni hypothèse. Les fictions sont des structures qui évoluent au fur et à mesure, qui changent les besoins de trouver du sens, qui changent avec l'homme. L'histoire s'est substituée au rite ou à la tradition. La trame historiographique, l'ordre imposé aux événements, prend appui sur une fiction comme moyen de donner du sens à la simple succession des faits pour la transformer en une interconnexion des parties en correspondance les unes avec les autres dans les tout. Toute époque recourt aux fictions de concorde et postule de complémentarité, mesure et ordonne le temps par l'imagination, seul pouvoir dont dispose l'homme pour coexister avec le chaos. Le processus historique qui nous dit que la culture n'est pas un acte d'asservissement aux conditions matérielles, mais délibération d'éléments humains transcendants vers la réalisation des valeurs. C'est pourquoi il est regrettable qu'aujourd'hui les sciences semblent s'être égarées sans se soucier de leur raison d'être. Quand la définition des sciences se déshumanise, leur côté purement fonctionnel ressort. En perdant leur bagage culturel, elles dérivent vers un pragmatisme qui les diminue pour les nécessités pratiques de l'utilité et de l'efficacité. Les désespérances à laquelle nous assistons actuellement résident dans le fait que nos propres créations de civilisations et de cultures glissent dans un dynamisme étranger, dans une direction différente qui fait perdre à l'homme ses dons, surtout ceux sur lesquels se fonde sa dignité. Les moyens s'élèvent à la catégorie des fonds pour faire place à une culture light. Vivons-nous une crise semblable à celle qui a fait s'effondrer l'Empire romain ou à celle qui a anéanti le Moyen-Âge pour faire place à la Renaissance? Apparaîtra-t-il une nouvelle utopie qui offre des nouveaux idéaux, une nouvelle civilisation qui aboutisse à la culture renouvelée d'une splendeur humaniste? Ou allons-nous à la débâcle définitive de l'espèce? Pour le moment, l'humanité a perdu, une fois de plus, la placidité de son être au monde, et celui-ci redevient étrange et inquiétant. L'homme passe à présent de l'enfance à l'adolescence, dans un contexte condamné à la terreur, dont les sentiers conduisent à la peur de l'incertitude d'un destin incertain, d'une réalité qui n'épargne à aucun des lieux où il réside. Nous naissons hommes, mais cela ne suffit pas, dit Savater. Nous devons aussi arriver à l'être, parce qu'être humain est aussi un devoir. L'humanité pleine n'est pas une réalité simplement biologique, comme c'est le cas des autres êtres vivants qui, en naissant, sont déjà ceux qu'ils sont destinés à devenir. L'être humain naît pour l'humanité, c'est-à-dire que notre humanité biologique a besoin d'une confirmation postérieure. Quelque chose comme une seconde naissance, dans laquelle, par nos propres efforts pour cultiver notre raison et notre esprit, comme pour cultiver cette relation inéluctable avec d'autres hommes, elle se trouvera définitivement confirmée. C'est pourquoi la culture, dans sa signification essentielle, est quelque chose qui doit être consciemment recherchée et cultivée par les hommes dans leur vie, parce qu'elle est le véhicule qui nous mène à l'exercice et à la compréhension de l'humanisme. George Steiner proclame l'impératif d'apprendre une fois de plus à être humain. Il nous faut, je cite, réapprendre ce qui se trouve compris dans une pleine expérience du sens créé, dans l'énigme de la création comme elle se rend sensible dans les poèmes, dans la peinture, sous sa forme musicale. Je ferme la citation. Car malgré tout, au fond obscur de cette nouvelle barbarie, il reste effectivement des créateurs d'art. L'art est avant tout langage, un système sémantique qui rend sensible le sens. Tout art, musique et littérature, dit Steiner, est un acte critique parce que son faire est une contre-déclaration du monde. Plus que les personnes ordinaires, le véritable artiste entre en relation avec le matériel brut, anarchique de la conscience et du subconscient. Ainsi, si l'on suit Merleau-Ponty, le langage est cet appareil fabuleux qui permet d'exprimer un nombre infini de pensées ou de choses avec un nombre fini de signes, précisément choisis de façon à être capable de recomposer précisément tout ce qu'on pourrait vouloir dire de nouveau et de communiquer l'évidence des premières désignations des choses. Paris sur le durable. Les créations esthétiques sont archaïques, dans le sens où elles portent en elles, toujours vivantes, leurs sources lointaines. Plus encore, l'art se développe et se nourrit de la réflexion de l'art qui lui est antérieur. C'est pourquoi, bien que contre-courant, il n'est pas nouveau comme le journalisme et la publicité. Il fuit plutôt les précisions immédiates pour se confronter au mystère de l'argument sur notre être intérieur et sur notre être social. Cependant, pour forger cet homme nouveau, on a non seulement besoin d'artistes, mais d'interprètes de ce langage. Car dans l'art, une voix humaine s'adresse à une autre. On a donc besoin d'un regard humain, pas celui du snob, de l'universitaire ou de l'érudit, qui soit à même de mener une lecture de l'intérieur et non de l'extérieur ou la périphérie. Apprendre par cœur, propose Steiner, parce que ce que nous connaissons par cœur devient une action effective dans notre conscience, un stimulateur cardiaque dans la croissance et la complexité vitale de notre identité. C'est pourquoi, tant que le langage humain existera, il y aura des fictions, il y aura des livres, la dimension esthétique existera. L'art naît d'une relation vitale avec l'altérité, avec notre propre humanité, qui n'a rien à voir avec une relation d'usufruit possessif et pragmatique, mais avec l'effort d'écouter la voix de l'être pour ensuite, par le langage, toucher les choses. Être un homme, c'est parler, dit Heidegger. C'est ce qui fait sa différence avec les pierres, les plantes, les animaux, mais aussi les dieux. Même si nous avions 1000 yeux et 1000 oreilles, 1000 mains et 1000 sens, ou encore plus d'organes, si dans notre essence le pouvoir du langage n'existait pas, tous les êtres nous seraient inaccessibles, aussi bien l'être que nous sommes que celui qui nous ne sommes pas. Or, dans ce monde si pragmatique et si rapide, il convient de se demander pourquoi l'art et la littérature. Je conclue en citant Juan José Saer. Je cite. On n'a écrit pas de fiction pour éluder par immaturité ou irresponsabilité la rigueur qui exige le traitement de la vérité, mais pour mettre justement en évidence les caractères complexes de la situation, complexe parce que le traitement limité ou vérifiable implique une réduction abusive et un appauvrissement. En opérant un saut dans l'invérifiable, la fiction multiplie à l'infini les possibilités du traitement. Elle ne tourne pas le dos à une supposée réalité objective. Bien au contraire, elle se fond dans sa turbulence en dédaignant l'attitude ingénue qui consiste à prétendre savoir à l'avance de quoi est faite cette réalité. Loin d'être une soumission à telle ou telle éthique de la vérité, c'est la recherche d'une autre vérité un peu moins rudimentaire. Fin de la citation et merci.
Alors, merci Sylvia. Moi, je retiens entre autres l'idée de ce Kairos au début qui propose une synthèse de tous les moments historiques, en fait, dans une conception très globale de la temporalité. C'est un éloge de l'art, évidemment, de l'art dans une perspective humaniste. Est-ce qu'il y a des interventions, des questions? J'en aurais eu une pour Frédéric, mais il est parti. Mais il reviendra. Alors, on peut attendre, là. Oui.
Seulement à propos de l'expression des mesures de la raison qu'il a employée à un moment donné. Et je dirais que notre problème, ce n'est pas d'être trop raisonnable, mais beaucoup moins raisonnable que nous le croyons tout le temps. Et sans dénier, loin de là, les illusions rationalistes qui ont été si fortes à un moment donné de la culture européenne, avec les Lumières, etc., et avec un peu plus de perspective, je crois qu'il est difficile d'exagérer la fragilité de la raison humaine. Donc si on veut, comme on le fait souvent dans les conflits, appuyer la partie la plus faible, il faudrait plutôt protéger un peu la raison. Et je crois, en plus, que tout ce que nous avons appris à travers les neurosciences et les sciences cognitives, etc., dans les dernières décennies, va dans ce sens. La raison est une lumière très 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 faible. Il faudrait plutôt essayer d'appuyer, la protéger, contraire.
Ouais. Donc, si je comprends bien, les critiques de la modernité qui voient dans un certain échec la modernité, l'échec de la raison elle-même, selon vous, ne sont pas tout à fait fondées. C'est-à-dire que c'est plutôt
qu'il n'y aurait pas eu. La ligne de pensée, c'est cette idée de la démesure de la raison, c'est surtout Adorno et Horkheimer qui l'ont formulé au XXe siècle dans Dialectique d'Aufklärung. Selon moi et beaucoup d'autres gens, ce n'est pas une critique tout à fait juste.
Mm-hmm. Moi, oui, Jacques Kagan.
J'ai envie de dire plein de choses. Vous m'arrêterez si je suis trop long.
C'est bon.
Franchement, je nous trouve assez passionnants. Je suis assez heureux. Hier, nous avons beaucoup parlé d'écriture. Ce matin, nous avons parlé de la vie. Et cet après-midi, nous sommes dans la forme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a une unité qui s'est dessinée comme ça, de manière involontaire. Deuxième petite chose, ce matin, je faisais remarquer, j'avais annoté mon texte hier soir, que hier, nous avions quand même fait beaucoup de phénoménologie. Cet après-midi, nous venons d'avoir deux intervenantes qui ont cité Merleau-Ponty.
Oui.
Donc, il y a une certaine continuité. Il y a autre chose que je voudrais relever, quand même. C'est que ce matin, Rorgué évoquait Héraclite, ce que je m'étais interdit de faire, même s'il me passionne énormément. Bon, je n'ai pas insisté dessus, mais Et nous avons évoqué le kairos. Je me rends compte que, suite à l'intervention de Rory, qui vient de faire sur les neurosciences, qui me passionnent absolument et qui sont effectivement très intéressantes d'un point de vue intellectuel, parce que ça jette, les neurosciences permettent de jeter un tout autre regard sur le fonctionnement du cerveau, de la conscience et donc forcément de notre conception de la rationalité. Mais je m'aperçois quand même que nos références, elles sont dans la Grèce antique. Le kairos, c'est pas vraiment une notion occidentale contemporaine. Hein. C'est quand même très étonnant que pour évoquer le futur, nous allions puiser à des sources aussi profondes, pour ne pas dire lointaines, que ces sources-là. Je me dis que d'une manière ou d'une autre, nous y sommes ramenés et que ce que je disais un petit peu tout à l'heure dans ma communication, c'est qu'en fait, ce qui fait sens est forcément linéaire, donc ne permet pas de retour formellement, mais fondamentalement, ce qu'on met dans le sens permet effectivement de créer une cyclicité qui nous autorise à aller revisiter les anciens et qui nous autorise justement à nous appuyer sur eux pour dire des choses qu'ils n'auraient même pas imaginées dans un monde dont ils n'avaient absolument aucune idée.
Oui, Anne-Hélène Fisch.
Moi, je veux dire à Nathalie Watten que j'ai trouvé très généreuse son récit, son roman familial, son fragment de roman familial, et je la remercie beaucoup. Et ce qui m'intéresse justement dans ce que tu as dit, qui prolonge un peu ce que Jacques dit, mais dans un registre ou un régime plus restreint, c'est cette idée qu'au fond, on travaille le futur à partir d'un héritage, d'une transmission ou alors d'un empêchement, d'une impasse de la transmission. Et dans les variations sur le futur que tu as proposé à la fin, tu as ouvert l'idée que, évidemment, ce non-héritage, ou en tout cas ce point d'interrogation, qui est à la fois un héritage très lourd qui vient évidemment de l'Allemagne. On a beaucoup travaillé comment les enfants et les petits-enfants des victimes du nazisme pouvaient justement continuer, mais je sais qu'il y a eu beaucoup. Des choses plus récentes sur les petits-enfants aussi du régime allemand. Et en même temps, il y a un grand trauma qui est Dresde, et donc ça complexifie évidemment la chose. Et la question que je te pose, mais qui est très ouverte, que tu puisses élaborer un petit peu, c'est justement comment l'écriture, pourrait dire, hérite d'énormément de points de silence, de trous, de lacunes, et comment tu travailles ça, par exemple, parce que tu as ouvert sur la mémoire, mais au fond, il y a beaucoup de trous de mémoire dans le récit que tu nous as donné, et c'est un peu ce que je voulais...
Bien, un peu comme Madeleine le disait hier, c'est vrai qu'on écrit à partir de ce qui nous est pas donné, de ce qui n'est pas connu, ce qu'on cherche à comprendre. Et pendant longtemps, c'est ce que je dis dans le texte, c'était plutôt la honte. Et j'avais pas l'impression que ça motivait l'écriture du tout, cette filiation-là, pour m'apercevoir, maintenant que j'ai commencé un peu l'écriture d'un roman, que toute cette, comment peut-on dire, cette folie... était très présente au cœur de l'écriture du roman, et donc ce silence, mais ce silence, comme je le dis, plein d'excentricité aussi, avait très certainement nourri ma pratique artistique, et que je pense qu'une souffrance se donnait par là, que je cherche à comprendre, mais pas point de vue du récit familial comme tel, mais en me disant que très certainement, je n'aurais pas surmonté moi-même mes propres silences si je ne vais pas là aussi. Alors, c'était cette idée-là. Et quand j'ai commencé à écrire le texte, j'étais là, le futur, qu'est-ce que je pense du futur, qu'est-ce que je vais dire sur le futur. Puis là, j'avais une phrase de Leibniz, puis j'avais toutes sortes de choses intéressantes. Mais en même temps, ça me dit pas, comme je le dis dans les variations, ça me dit pas ce que je pense du futur. Et vraiment, on le dit souvent de façon un peu cliché, mais c'est venu comme ça, c'est le passé qui est venu. Puis là, j'ai essayé de comprendre où je ne veux pas parler du futur, où à quelque part je vais rejoindre le futur de cette manière-là. Puis voilà. Merci.
Bon, alors là, maintenant que Frédéric est revenu, j'aimerais lui poser la question. En fait, j'étais pas sûr si je sentais une contradiction, en tout cas sûrement un paradoxe dans le fait que tu as dit que il était important de renouer avec le souffle lent qui donne depuis toujours sa vie au poème. Ouais. Tu as parlé d'apaiser le monde, mais ensuite, un des premiers exemples concrets que tu as donné, c'est le rap. Et est-ce que le rap, enfin moi, je suis un néophyte, là. Je connais pas bien, mais je le perçois comme une accélération du langage. Très souvent dans le rap, il y a vraiment un déferlement de la parole.
Oui, il y a un débit assez rapide, effectivement. Ouais. Mais quand ces deux trucs, c'est comme, disons, pour certains, on va dire jeunes ou certaines personnes qui peuvent s'intéresser à, qui ne s'intéressent pas à la poésie, ils peuvent y accéder d'abord par quelque chose comme le rap ou le slam ou justement, comme je disais, les spectacles récents où Benigni fait Dante et c'est le premier pas, c'est la façon d'y accéder. Comme moi, j'ai découvert les poètes romantiques quand j'avais 12-13 ans en écoutant un groupe heavy metal qui s'appelait Iron Maiden, qui avait fait une chanson avec un poème de Wordsworth. Donc, à partir de ça, moi, j'ai pu découvrir la poésie. Donc, c'est simplement pour l'entrée en matière.
J'ai peut-être mal compris. Tout ça. Oui, Hélène Dorion.
Même veine, mais sans vouloir évidemment ouvrir un débat entre les deux, mais Frédéric, tu avais cette très belle expression, partir à la recherche de l'autre, que j'aimais beaucoup aussi. Et en même temps, tu parlais de l'ouverture du poème vers le monde du spectacle qui permettait, mais je pense qu'on peut de toute façon l'ouvrir à la littérature de toute façon, je pense que c'est pas propre au poème, il y a quand même une certaine volonté d'ouvrir la littérature, qu'elle aille vers le monde du spectacle pour avoir, comme tu disais, un plus grand rayonnement. Et enfin, je me pose quand même la question, est-ce qu'à ce moment-là, on ne va pas vraiment ailleurs? Est-ce que ce qui se passe entre, je sais tout ce que ça peut ouvrir comme voie, là, mais je pose la question de toute façon. Est-ce qu'on n'est pas tout à fait ailleurs quand on est seul avec un livre, quand on est seul avec un roman, quand on est seul avec un
absolument,
poème?
Absolument.
Et est-ce que c'est forcément positif et favorable de souhaiter l'ouverture du poème vers le monde du spectacle pour qu'elle ait un plus grand rayonnement? C'est un peu ces trois mots-là, l'ouverture,
le
plus grand rayonnement.
Je crois que c'est souhaitable dans ce sens que ça fait un pont. L'un n'exclut pas l'autre. Le fait que les gens découvrent des poèmes, le fait que quelqu'un découvre Gaston Miron en écoutant Chloé Sainte-Marie, puis après ça va le lire, ça fait en sorte que cette personne-là va finir par aller le lire. Comme les gens qui ont découvert le...
Est-ce que c'est pas déjà une autre expérience? Et est-ce que rendu là, on ne peut pas identifier les deux expériences alors qu'elles sont, à mon sens, très différentes? Quand j'entends Gaston Miron même chanter dans ses spectacles ou même autre chose, ou même du slam ou du rap, j'ai, il me semble, en tout cas pour moi, une autre expérience de la poésie que celle que j'ai quand je lis un livre de la poésie. Il me semble dangereux d'identifier les deux expériences et de dire que oui, forcément, une mène à l'autre. Et que
c'est absolument une autre expérience, mais je crois que l'une peut mener à l'autre, quand même. C'est que ça fait en sorte que les gens qui n'auraient pas du tout connaissance de l'existence de certains poètes, en ont connaissance, puis s'ils décident de creuser plus loin, ils vont creuser plus loin. C'est qu'à partir de... Quand le rock est devenu... si on parle de musique, quand le rock est devenu important culturellement et puis a pris une place, ben il y a des gens qui ont creusé les racines du rock et se sont rendus au blues. Donc, il y a toujours quelqu'un qui va aller plus loin. Puis le plus de gens qui en ont conscience, le plus qu'il y a la possibilité pour que, à l'intérieur de cette masse-là, il va y avoir
des gens qui vont creuser plus loin, puis finir avec le, par vivre l'expérience du poème dans la solitude. Bon, c'est tout ce que je dis.
Oui, non, mais je comprends. Je me demande juste si effectivement ça crée plus de lecteurs. Je ne sais pas.
Je crois profondément.
Je ne sais pas comment on sait ici, et je sais qu'en Europe c'est différent, il y a beaucoup de gens qui lisent, mais au Mexique, les personnes ne lisent pas. La majorité de personnes ne pratiquent pas la lecture littéraire. Ils lisent pour passer les examens à l'école. Mais on a registre où on trouve que les personnes lisent un livre dans une année. Plus ou moins. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Frédéric parce que il faut faire des ponts. Au moins au Mexique, on fait toujours ça. Moi, je dirige une revue littéraire qui appartient à l'Université de Guadalajara et on a des problèmes parce que les personnes ne les lisent pas. On a inventé des ateliers à l'école préparatoire, le baccalauréat, pour que les jeunes s'approchent à la lecture. Et on fait beaucoup de choses comme un cirque pour qu'eux puissent goûter, et s'approcher.
Je suis tout à fait d'accord et je ne nie pas qu'il faut faire des ponts, il faut aller aussi, ma propre pratique aussi le prouve, il faut aller vers les gens, il faut trouver des lieux, des expériences qui vont les rapprocher de leur propre expérience. Ce que je questionne tout simplement, c'est est-ce qu'à un certain point, une expérience ne nie pas l'autre expérience?
Oui, c'est pas un certain danger.
Oui, exactement. Oui. C'est sur la nature de l'expérience
que je
me pose la question.
Je pense que ce qu'il dit...
Sur la validité de l'expérience.
Oui, oui. Mais il faut arriver à l'expérience de la solitude, bien sûr, de la lecture. Mais il faut faire du pont et d'inventer des choses pour que les gens arrivent à ça. Moi, j'ai eu une expérience très importante pour moi. Je suis allée donner une lecture de ma poésie à une école préparatoire où il y avait beaucoup de gens. Ils étaient les mondiales de football. Et je suis arrivée et tout le monde regardait un écran, les jeunes. Et je dis, comment est-ce que je vais commencer avec la poésie? Je vais lire. Tout le monde va s'en sortir. J'ai commencé à lire mes poèmes et les jeunes étaient touchés, ils étaient concentrés. Et bon, je disais beaucoup des anecdotes avec les animaux, justement, de mon bestiaire. Et les jeunes, ils sont écouté mes poèmes et c'était touché.
La lecture de poèmes et le monde du spectacle, ça c'est autre chose.
Oui, je suis d'accord. Oui, mais il fallait faire mettre des petites anecdotes pour qu'ils y arrivent. Mais je vois par exemple mes enfants qui sont jeunes, ils aiment plus les chansons que les poèmes. Et je suis poète. Ils sont mes enfants. Mais c'est vrai que la sensibilité, c'est différent maintenant.
C'est une question de séduction. Oui. C'est une question d'aller chercher les gens pour ensuite leur montrer véritablement ce que c'est. C'est une question de séduction, simplement. Comme je ne sais pas s'il y a des statistiques qui sont sorties par rapport à ça, mais depuis qu'ils ont le truc, la poésie dans le métro ici... ou la poésie dans les autobus dans d'autres villes, j'imagine qu'il doit y avoir des gens qui se disaient « Ah, les poètes, la poésie, c'est quoi? C'est un truc qu'on étudie à l'école, c'est des gens du 19e siècle, tout le monde est mort. » Puis, il y a peut-être des gens qui se sont rendus compte que « Non, il y a encore des poètes qui sont vivants, puis on peut encore... »
Non, on n'est pas dans le monde. Ça, c'est autre chose encore.
Mais ce que je dis, c'est que il faut qu'ils sortent...
La lecture du poème, c'est une expérience.
Oui, mais il faut que ça sorte du livre.
Mais oui, mais ça, je suis tout à fait d'accord.
C'est tout ce que je dis.
C'est là-dessus que j'intervenais, là. Ouais. Ça, je suis tout à fait d'accord.
Il y a quelques interventions prévues. Monique Proulx, dans les hôtels, en tenue d'Alfonso. Alors, Monique Proulx.
Mais je voulais répondre à Hélène, puis contribuer à cette conversation-là. C'est vrai qu'il y a une interrogation jusqu'à quel point ça retourne à la source première. Et à ce moment-là, je pense par exemple au combat des livres, ce fameux truc-là, pour mousser, soi-disant, la littérature québécoise, tout ça. On est dans une drôle de période où finalement, on se sert des armes de ce qu'on décrit quand on est dans les arts pour essayer de reconquérir les gens. On ne sait pas encore combien de gens ont réussi à rattraper. Je pense qu'on réussit quand même à en rattraper quelques-uns, mais je ne suis pas sûre que c'est très, très, très concluant. Je pense par exemple aux adaptations cinématographiques des romans. Bon, moi j'ai travaillé en cinéma. Oui, il y avait une légère augmentation de la vente du livre, des gens qui allaient au livre. Il allait au livre par curiosité pour savoir avoir une suite au cinéma. Est-ce qu'après il était devenu mordu au genre littéraire? Je suis pas du tout certaine de la chose. Mais en même temps, c'est les seules armes dont on dispose présentement pour essayer d'attraper littéralement comme des mouches des gens qui voleraient ailleurs et qui voleraient irrémédiablement ailleurs. Donc, je sais pas, je pense pas que les statistiques, jusqu'à quel point les statistiques pourraient être probantes, combien faut qu'il y ait de personnes. Moi, je dis une personne sauvée, c'est une. Une personne qu'on récupère, c'est une. Alors, moi, je suis à vrai dire, j'accepte ça parce que c'est l'époque. L'époque ne joue pas du tout dans les mêmes registres que nous, on a commencé à travailler. Je voulais juste aussi rajouter un petit insert à propos de ce que vous souhaitez sur les postes d'écoute, mais ça a existé. Je veux dire, il y en avait encore à Montréal il y a 3 ans, à l'usine C, tout ça, on ouvrait un truc, puis on écoutait soudain un poète. Moi, d'ailleurs, ils ont même enregistré un texte, mais c'était mal foutu, la voix était. Il y avait des grincements. Et en plus, c'était non-stop. Alors, tu arrivais en plein milieu d'un texte, puis là, tu savais pas de quoi était question, puis là, il fallait attendre la fin. Là. Mais ça a existé, ça s'appelait
en France.
Je pense que ça s'appelait Voix d'Amérique, je sais pas quoi. Puis en plus, on n'était pas payés.
Moi, j'imagine plus. J'imagine des capsules un peu comme.
Excuse-moi. Bref, voilà. Voilà l'intervention.
Donc, moi, j'imaginais plus des capsules comme à Paris, les toilettes publiques, là. Alors, on entre dans une capsule.
Ah bon. Ça recommence, mais ça recommence.
Il y avait déjà tellement plus de tribunes avant qu'ils ajoutent des capsules.
En tout cas, mais tout est possible. Toutes les tribunes sont peut-être souhaitables si on veut réussir. Mais c'est vraiment des petits morceaux qu'on récupère. Mais en même temps, est-ce qu'on a le choix?
Denise Desjardins.
Moi, j'aurais aimé parler aux trois, dire que le tic-tac de la naissance et de la mort m'intéresse. Nathalie, ce retour au passé. Pour nous orienter autrement, côté futur, drôlement, c'est ce que je travaille aussi. Donc, je suis très, très émue, j'ai hâte de lire ton roman très profondément et j'étais très touchée par ta communication, très fort. Frédéric, je ne voudrais pas jeter encore du feu ou ajouter, mais disons qu'effectivement, je ne me sens pas très à l'aise avec beaucoup de petites choses. Par exemple, les poètes restent entre eux. Moi, je suis poète depuis 40 ans et je ne fais pas de chansons, je ne sais pas chanter. Mais il me semble que les poètes que je connais, qui sont certaines sont autour de la table, les gens que je côtoie, font des lectures publiques, travaillent avec des danseurs, des musiciens. Louise travaille avec la scène, avec des arts visuels. Bon, évidemment, c'est des ponts qui sont pas nécessairement spectaculaires.
Non, mais je trouve
pense que
ça,
les poètes restent
bien,
entre eux, là. Moi, je marche pas dans cet énoncé-là, pas du tout. Et ce sont presque des poètes uniquement qui ont, depuis 38 ans, organisé la rencontre des écrivains. Donc, je veux dire, il y a une volonté d'ouvrir. Et puis, juste, des fois, je m'emporte, mais juste une petite chose, le métissage. Ce qui est étrange, j'aime beaucoup le mot, mais ce qui est étrange, c'est dans tous les exemples que tu as apportés, il n'y a aucune femme.
Il semble. Catherine Lalonde.
Catherine Lalonde, Gabrielle Mistral, grande poète chilienne.
J'ai quand même avancé.
Quelques femmes.
Ok, ouf, pardon alors.
Alors moi j'aimerais vous remercier tous les trois. Vous me forcez à relire Merleau-Ponty, George Steiner. Il faut que je cherche dans mes livres de Kairos ce que ça veut dire. Non mais j'aimerais bravo à Frédéric. Moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que ça nous ramène à Homère. N'oublions pas que la poésie, comme dit Valérie, a changé le jour que les yeux ont commencé à regarder ce que les sons faisaient. Et je pense que ce qui dérange maintenant, c'est que, et je sens ça chez Denise, chez Hélène, cette expérience de la poésie écrite et la poésie foncièrement du livre est une expérience assez moderne, très très moderne, je pense, j'irai jusqu'à Valérie finalement, Mallarmé. Mais j'écoute ma mère, j'habite avec ma mère et mon père, et tous les jours ils lisent de la poésie à la radio italienne. Et pour la première fois dans ma maison, moi je fais la poésie aussi depuis 35 ans, on parle de poésie. Et pour moi, c'est extraordinaire. Voilà des gens, c'est pas vrai qu'ils sont illettrés, mais illettrés au moins dans le domaine de la poésie. Même si mon père connaît Dante par cœur, mais ça il l'a appris parce que Mussolini nous obligeait à faire ça. Mais c'est quand même extraordinaire que nous redécouvrons, et je suis tout à fait d'accord avec toi sur le rap, la musique. Moi aussi, si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à la musique rock. C'est dans les années 50, vraiment les années 50, fin 50, il y avait des poètes dans ça. Chuck Berry, c'est un des grands poètes. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais c'est un grand poète. Ça, c'est la grande poésie qui a été mise dans les Fort Bars. Tu comprends? Je trouve ça extraordinaire. Et il parlait d'une réalité de la jeunesse qui personne d'autre de l'époque ne pouvait le faire. Tu sais, même les Beat Generation n'ont pas pu faire ce voyage dans la jeunesse de la basse classe. Je crois que nous vivons en ce moment, mais c'est une question que je me pose. Mais je voulais dire que nous sommes en train de revenir à une poésie narrative, une poésie épique. Parce que nous parlons maintenant de la poésie du livre. La poésie du livre est profondément lyriste. Et la prière, qu'est-ce qu'on fait dans ça? C'est-à-dire toute la culture de la prière. Ma mère qui prie, toute la culture judaïque qui est basée sur la prière. Je pense que c'est une autre réalité qui est vocale. La poésie épique est vocale, narrative. Je pense qu'il ne faut pas oublier que le livre et la poésie que nous écrivons à la plupart de nous est une poésie de lyrisme, des courts poèmes, même si ça dure 500 pages, mais ça reste toujours un voyage très court vers le haïku en plus long. Mais nous sommes atteints de découvrir... Nous sommes dans une époque, c'est ça que je voulais dire aussi la semaine passée, hier, pas la semaine passée. Nous sommes atteints d'entrer dans un moment où nous devons chercher des nouvelles formes pour ces supports qui peut-être demandent d'autres contenus. Hein? Et je pense que c'est pas pour rien qu'on va vers la rime encore. Il y a ce désir d'écouter, d'apprendre, de se faire raconter des histoires, même dans la voiture. Je pense que c'est très bon, je le vois d'une façon extrêmement positive, et merci pour ce que tu as dit, de sortir la poésie du livre.
Voilà, c'est dit. Naïm Kata.
Oui, j'ai deux remarques à faire. D'abord, la première à Nathalie, je trouve que c'est très important, la mémoire. J'ai intitulé l'un de mes livres « La mémoire et la promesse » pour parler de passé et de l'avenir. Alors, ce que je crois, c'est que le futur ou l'avenir n'a de sens que s'il y a une mémoire. Et c'est pour ça que c'est important que la mémoire s'inscrive et la mémoire est toujours vécue au présent. C'est pas les souvenirs. La mémoire n'est pas un souvenir. C'est ce qu'on vit alors qu'on vit. Qu'on vit au présent, et donc c'est une ouverture vers l'avenir. C'est passionnant comme idée et comme manière d'aller vers le futur. Pour le mélange des genres, je vais vous raconter une anecdote. J'étais à La Havane dans une fabrique de cigares. Et dans une fabrique de cigares, il y a quelqu'un qui est installé en haut et qui lit un roman. C'est pour que les ouvriers et les ouvrières ne s'ennuient pas, ne s'endorment pas. On leur lit un roman.
Comme dans les monastères anciens.
Comme dans les monastères.
Comme dans les monastères.
Oui, mais le monastère, c'est autre chose, c'est une prière. Non.
Des récits de la Bible, par exemple. Oui,
mais...
Vies de saints.
Mais là, c'est des ouvrières qui ont gagné leur vie en roulant du tabac. C'est pas exactement... Enfin, en tout cas... Alors là, j'ai vu... C'est pour que pour les faire travailler mieux. Alors, on utilise le roman pour faire travailler mieux les ouvrières ou les ouvriers des cigares. Mais après, on a découvert qu'on pouvait aller encore plus loin que le roman. On a commencé à lire des discours de Fidel Castro.
C'est plus long.
c'est aussi long qu'un roman.
Mais c'est des romans aussi.
C'est d'une ennui mortel. Alors là, je me pose... Moi, je n'ai pas de solution. Je me pose des questions sur le mélange des genres. Et comme Hélène, j'ai une idée, sorte d'insistance sur le roman, la poésie, l'essai, pas mélangé avec autre chose. J'aime beaucoup la musique. Il n'y a que mélange qui valable, c'est l'opéra, où il y a à la fois une histoire et de la musique. Mais là, c'est des deux côtés. Ce mélange-là crée une autre forme. L'autre forme, c'est l'opéra. L'opéra est à la fois musique et littérature. Et bon, mais autrement, je ne sais pas. On n'emmène pas la littérature par autre chose. À l'Orchestre symphonique à Montréal l'année dernière, on a fait jouer, on a essayé de mêler ça au hockey un jour pour faire venir des gens à la musique classique. Moi, j'ai beaucoup de doutes sur de tels procédés.
J'ai des doutes, je
n'ai pas de réponse, mais j'ai des doutes.
Je ne veux pas parler longtemps.
Non, mais ça va, c'est assez tantôt.
Je ne voulais même pas parler avant, mais Gagnon. Je veux dire trois petites choses. D'abord, j'ai cité Deleuze. L'écriture est une solitude peuplée de rencontres, premièrement. Deuxièmement, je vais dire que ce que j'ai toujours pensé, écrit, pratiqué, la poésie est la musique de la langue. Elle se tient en soi comme une musique. Et troisièmement, je dis à Antonio, vive Mallarmé et vive le livre. Je voulais juste ajouter qu'hier, j'ai fait une erreur quand j'ai parlé de Louis Portugais, qui avait fait le film avec écran noir sur la parole. C'était pas Louis Portugais, je me suis trompée. C'était Baille. Mais j'ai oublié son prénom.
Je pense que Duras l'a pas dit, c'était portugais.
Non, mais elle aurait pu dire de Baille, parce que ce fut son seul film. Il est mort jeune après un accident de moto, c'est un destin complètement tragique. Là, j'oublie son prénom, je suis Baille. Il n'a fait qu'un film, celui-là. Avec écran noir. Et puis il est mort après un accident de moto. Bon, alors je tenais à dire ça.
OK. Et là,
je vais juste
Dorian.
Fermer la parenthèse que j'ai ouverte.
Mais elle est importante.
Oui. En fait, moi, c'était pas du tout sur soit la passerelle ou même le mélange des genres ou, comme Antonio disait, une sorte de purisme du livre ou que le livre ne doit pas rencontrer. Je vais quand même mentionner que Denise et moi, en 1991, on faisait une lecture spectacle alors qu'il n'y avait rien qui existait de tel, en tout cas ici au Québec encore, et qu'on avait des projections de diapos, de la musique, etc., et qu'on a fait ça dans à peu près
tous les salons. Allez-vous danser?
Denise voulait, mais j'ai refusé. Donc, pour moi, c'est vraiment sur la nature de l'expérience. Et pas du tout, est-ce que quelqu'un va voir un film, puis ensuite va aller lire le livre? Mais oui, c'est bien possible. Mais ce que je dis, c'est que la personne qui regarde un film ne peut pas identifier son expérience à celle de la lecture d'un roman. J'ai cité Emerson qui disait, si un être humain veut se sentir seul, qu'il n'ouvre pas un livre, qu'il regarde le ciel. Et là, je reviens à ce que tu disais encore, partir à la recherche de l'autre, pour moi, ben c'est l'expérience qu'on fait avec un livre n'est jamais la même que celle qu'on fait au cinéma ou avec n'importe quoi. Et comme Naïm disait, ben, l'opéra, c'est ni le théâtre ni la musique, c'est autre chose. Ben, c'est... Voilà.
Merci. Mais c'est un autre chose qui peut mener à cela.
Là, tout est lié, mais là,
il y a plein de gens qui...
On retombe dans la physique quantique.
Non, mais il y a plein de gens qui écoutaient Bob Dylan qui ont dû se questionner. Ah, pourquoi il s'appelle Dylan? Puis là, ils lisent. Ah, c'est à cause de Dylan Thomas. Ah, je vais aller lire sur Dylan Thomas. Ah, c'est qui l'espèce de barbu dans le film de Subterranean Homesick Blues avec Bob Dylan? Ah, c'est Allen Ginsberg. Ah, mais je vais aller lire Allen Ginsberg.
Oui, tous les liens sont possibles. C'est juste l'identification d'une expérience avec une autre. C'est que ça.
Deux ça.
Oui. Jacques Rampour.
Oui, très rapidement, oui. Ce que disait Antonio, sortir la poésie du livre, là, je ne suis pas d'accord. Je suis plutôt du côté d'Hélène Dorion, tout en...
On va diviser, oui, c'est ça.
Non, mais je veux dire, personnellement, je ne sais pas si je serais venu à la poésie, mais c'est sûr que jeune, j'écoutais les chansons de Brel, de Brassens, de Leclerc, de Vigneault, de Bécaud, etc. Et d'Aznavour, ils ont peuplé ma tête quand j'étais jeune. Et je pense que c'est pour ça que je suis venu à la poésie. Cela étant, je pense qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions non plus. J'ai entendu tellement souvent des animateurs de radio qui disent « Ah, on va faire une émission de poésie, mais pour que les gens s'habituent, on va commencer par la chanson. » Et puis, ils continuent comme ça pendant 5 ans avec la chanson, puis après, ils sont remplacés par un autre qui va faire une émission de poésie, mais qui commence par la chanson, ça n'aboutit jamais. Donc, je suis assez sceptique là-dessus, et si je disais que je suis du côté d'Hélène, c'est vraiment le rapport au livre. On discutait tout à l'heure avec Monique Brou. Quand je vais dans des écoles, je disais aux élèves, la poésie est une sculpture sur silence. Et avant de m'apercevoir, quelques années plus tard, qu'Ylvic l'avait déjà dit à voix, mais tant pis. Mais je pense que c'est quelque chose qui... C'est profondément ça, il y a un dialogue qui s'établit entre ces mots qu'on lit, cette voix intérieure qui naît et qui n'est pas le même type d'expérience. Qu'on fasse venir des gens vers la poésie par d'autres moyens, j'en suis d'accord, mais sans illusion et sans confondre les deux.
Bon, je vais seulement dire rapidement, parenthèse, oui. Je suis un éditeur.
Moi, je publie encore des livres.
C'est pas ça que je voulais dire. Je voulais parler de deux expériences différentes, c'est tout.
Bon, je prends encore deux interventions, Éric Clémens et Nathalie Fillon.
Oui, Éric va en engendrer 5 autres.
En général, quand Éric parle, oui, souvent.
Je pense que tout de même, on sera tous d'accord, livre ou pas, enfin livré et non livre, sur le fait que c'est le langage qui compte. Une chanson qui porte un fort langage, je ne pense pas qu'elle est inférieure à un poème écrit qui porte un faible. Bon, non mais c'est vrai, ça existe ça tout de même. Non, mais justement, je voulais simplement intervenir pour souligner combien j'ai été presque ému de vous entendre tous les trois, parce qu'il y avait justement une force du langage qui était réaffirmée dans chacune de vos, de vos interventions, hein, que ce soit la lutte contre les lacunes dans la mémoire, c'était vraiment cette lutte de langage, que ce soit le métissage dans le langage, c'était bien sûr, c'est pas un métis en l'air, c'est le langage dont vous parliez, c'est ça l'essentiel, avant que, quelle que soit la forme que ça prend. Et puis bien sûr, c'était tout le kairos que le langage doit essayer de recueillir, qui était essentiel dans le vôtre. Et ça me fait penser sur quelque chose sur lequel il faut peut-être revenir, qui a été dit l'autre fois, et que, évidemment, vous êtes l'ennemi interne que vous avez ramené sans le vouloir, c'est la question de cette croyance que le langage n'est qu'un instrument. Justement pas. Si le langage est métissé, s'il dépend d'un kairos, s'il dépend des lacunes de la mémoire contre lesquelles il faut lutter, ça montre bien que le langage, nous sommes dedans, il n'est pas devant nous. Le langage n'est jamais un instrument que pour la raison. Alors, je suis pour la raison en tant que philosophe, et pour le plus d'usage de la raison, mais il faut aussi savoir que la raison est toujours unilatérale.
Tout à fait d'accord.
Ah, et que cette unilatéralité, c'est ce qui joue. Ah bon, alors ça va. Alors.
Je prédis la paix entre Israël et la Palestine.
Moi, je la pousse comme vous le plus loin possible, mais il faut aussi savoir qu'on est dans le langage et qu'on a besoin d'apogée, non pas parce que c'est des artistes et que les artistes sont supérieurs aux autres gens et des idioties de ce genre, mais parce qu'eux nous rappellent que nous ne pouvons pas dominer le langage, que quand nous croyons le dominer, c'est peut-être le moment le plus dangereux, parfois en tout cas. Parfois, ça peut être un moment encore plus dangereux que quand on ne le domine pas. Voilà. En tout cas, merci à vous.
Bon, il y a beaucoup de débats aujourd'hui, c'est vraiment intéressant, mais il y a des réconciliations aussi, c'est très bien. Alors, Nathalie Fillion.
Non, c'est juste parce que j'ai pensé, en écoutant Hélène, et c'est vraiment une anecdote que je raconte, parce que moi qui n'écris pas de poésie, que je suis très heureuse d'être avec des poètes, les dernières expériences que j'ai vécues les plus bouleversantes, c'était cet été, j'ai été pour la première fois lire dans des prisons en France. Elles sont pas en bon état, je sais pas si vous êtes au courant, mais elles sont, c'est assez terrible ce qui se passe dans nos prisons. Donc bon, j'étais dans une très très vieille prison, assez indigne, et je suis pas des lourdes peines, mais des gars très abîmés par la vie. J'avais jamais été confrontée à ça. Et voilà, certains qui sont sous calmants, enfin bon, très mauvais état physique, sanitaire, psychique, tout, enfin, voilà, c'est la misère, quoi. J'avais jamais vu ça. Et je venais lire ma petite pièce de théâtre, bon. Et puis j'ai discuté surtout avec eux, et c'est des gens qui sont dans de triple enfermement, hein, pas moi. Et je veux dire, donc, je luttais contre mon émotion, et on discutait de littérature, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant ce temps d'enfermement. Et ils m'ont parlé des livres dans la bibliothèque, et j'ai dit, qu'est-ce que vous lisez, qu'est-ce que vous avez marqué, et tous m'ont dit, oh, c'est la poésie que je préfère. Donc en tout cas, je me dis, il faut quand même que je vous le dise, parce que ça m'a scotché, quoi. C'était vraiment, et il y avait des gars, des têtes de malfrats, mais très vraiment, tellement peur quand je suis arrivée, et j'ai dit, mais ah bon, et pourquoi? Et voilà, tout simplement, parce que c'est beau. Je sais pas, je me dis, il faut quand même que je vous dise ça. Parce que, ça finit, qui a dit, qui tenait la bibliothèque, et dit, les gars, je vous ai pas dit, il y a ça de poésie qui est arrivé. Ils montraient la taille du tas de bouquins qu'on leur avait donné. Donc je sais pas comment ça se passe chez vous, mais je me suis dit, il faut vraiment donner des livres en prison et de la poésie. Je vais vous raconter ça.
On les a dans son
Je crois que Jorge Richman veut
une anecdote dans ce sens. Et il y a un grand poète de chez nous, José Hierro, qui est décédé déjà depuis quelques années. Et lui, il a lutté avec la République et il a été condamné à mort avec beaucoup d'autres gens, un grand-père de moi, par exemple, aussi, après la guerre. Mais il n'a pas été exécuté. Mais il était avec des gens qui... Et chaque jour, on les amenait hors de la prison pour les fusiller. Et Hierro raconte prisonnier raconte comment Hierro, qui connaissait par cœur des poèmes de Lope de Vega, des poèmes classiques en langue espagnole, chaque nuit récitait pour ce groupe des gens dont certains allaient sans doute mourir la journée suivante. Et ça, c'est quand on se demande
ce que peut la poésie. Bon, ça la poésie peut le faire.
Mm-hmm. Oui, merci. Bon, Antonio veut avoir le dernier mot, alors.
Non,
c'est une blague.
Non, je voulais seulement dire une chose parce que ça me touche personnellement. Ça a été soulevé par inconsciemment. Il y a environ 5000 langues dans le monde. Plus de, 75% de ces langues-là ne sont pas écrites. Mm. Ils ont des poètes, ces gens-là. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'existent pas? C'est seulement ça comme défense pour le livre. La plupart de ma culture n'a pas de langue écrite. Hein,
oui, mais en même temps, les Inuits qui n'ont pas d'écriture, de culture écrite, sont sur le vol, se meurent. Oui, d'avoir une écriture et veulent. Et ça commence, j'ai lu, ils ont une petite revue sur la Basse-Côte Nord, ça commence par de l'écriture de poèmes. Mm-hmm. Et ils veulent, ils se meurent de pouvoir transposer leur poésie orale dans l'écriture. Ça vient d'eux. C'est pas nous les Blancs qui leur avons dit de faire ça.
Et la poésie orale est de la poésie.
Oui, mais ils veulent la transcrire et ils veulent faire des livres.
C'est la pratique.
Les Jésuites ont fait ça dans le 16e siècle en Amérique du Sud. Et il y a au Brésil de plusieurs langues qui ont survécu grâce aux Brésiliens, les prêtres brésiliens qui ont écrit le dialecte.
Mais là, c'est eux.
Oui, mais parce qu'on est 500 ans plus tard. Ouais, mais à l'époque, il faut savoir écrire pour écrire. Le son et la lettre, c'est un phénomène très complexe.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu en eux un désir d'écrire. Avant, ça a été les missionnaires, ensuite les anthropologues. Et puis récemment, ils ont décidé d'envoyer au sud, comme ils disent, c'est-à-dire dans les universités de Québec ou de Montréal ou de Sherbrooke. Ils les ont envoyés pour qu'ils apprennent l'écriture de leur langue. Ils sont en train de sortir leur premier dictionnaire, leur première grammaire. Et là, ça va être bientôt les premiers recueils de poésie. Ce désir d'écriture était là.
Bon, cela dit, je pense que c'est un débat qui pourrait être pas intéressant. L'oral et l'écrit et tout. Peut-être que Sylvain Castillo est là. Et malheureusement, vous n'aurez pas le droit de réponse. C'est Sylvain qui
aurait bien. Par rapport à ce que vous avez dit, Nathalie et Jorge, je pense que la poésie touche les plus profonds de la vie humaine. C'est-à-dire quand on est en prison, quand on est abandonné, quand on vit la limite, expérience limite. La mort, et la manque de liberté, il y a beaucoup d'expériences limites. On ne trouve que la poésie. C'est-à-dire, c'est la poésie que les gens qu'on cherche et on trouve là. Le problème avec la société mexicaine contemporaine, c'est que, et je crois que c'est en général, avec le temps qu'on vit, c'est qu'on est très éloigné de nous-mêmes, avec les conforts, avec beaucoup de les machines, toutes les choses qu'on a autour de nous, nous éloignent de notre intérieur, de notre profondeur. Et je pense que c'est à cause de ça que la poésie, c'est pas un genre qui est à côté de nous. Pas de nous, oui, mais des gens. Et moi, j'ai des problèmes pour enseigner la poésie. Dans mon cours, j'ai lu de la poésie et mes élèves s'ennuient. Ils préfèrent de la prose, de lire la prose, d'écrire la prose. Et c'est un problème général, je pense.
On ne parle pas là-dessus.
Je voulais dire ça.
Bon, il y a un autre... Non, on ne va pas tenter de répondre à ça parce que là, on entre pour... Oui.
La définition de Mallarmé.
Rapidement.
C'était au moment où il allait donner sa conférence en Belgique sur Villiers de l'Isle-Adam à la fin du 19e siècle. On lui demande qu'est-ce que la poésie. Pour moi, c'est la plus belle définition. Il dit, c'est une belle et antique pratique dont le sens se gît au mystère du cœur.
Comment t'es pas entendu?
C'est une belle et antique pratique dans le sens se gît au mystère du cœur.
Et Francis Poche, la poésie, merde pour ce mot.
Non, mais c'est beau, la définition.
Bon, alors, écoutez, tout cela étant dit, je veux d'abord dire merci d'abord à toutes les personnes qui ont présenté des exposés d'une très grande richesse depuis la conférence d'ouverture, l'exposé et toute la suite, la qualité aussi des échanges. Aujourd'hui, ça s'est animé encore plus qu'hier et je pense que c'est très bien. Cela dit, à la table à midi, Jacques Kagan m'a cité Flaubert. Et je respecte beaucoup Flaubert, qui dit que conclure, c'est la bêtise. Alors, je ne vais pas conclure. Ça, c'est certain. Mais de toute façon, ça serait arrogant. Je vais pas. C'est pas vraiment une synthèse non plus. Enfin, en tout cas, peut-être dire quelques mots. Je dirais, en tout cas, qu'il y avait un pari tout de même à choisir ce thème du futur. Puis je pense que plusieurs, vous l'avez noté en passant, que c'est une notion forcément intangible, évanescente, fuyante. Jacques, justement, ce matin, parlait d'une aporie. Donc, on est d'emblée dans le virtuel et je trouve que, cela dit, il me semble qu'on est parvenu à donner une certaine consistance à cette notion. Une chose qui me frappe, alors, c'est une absence presque, et je trouve que c'est très significatif. Elle m'est venue à travers une expression de Sylvia tout à l'heure. Bon, forger un homme nouveau, j'ai entendu le mot nouveau, et il me semble que le mot nouveau a été à peu près totalement absent de nos conversations, de nos échanges. Je pense que ça traduit quelque chose, tout de même qu'on ne pense pas le futur aujourd'hui sous la catégorie du nouveau. Je pense que c'est assez clair, que probablement, entre autres, parce que le nouveau est tellement dégradé par son utilisation mercantile, c'est la catégorie par excellence de la consommation. Les gens ont une boulimie extraordinaire du nouveau. On voit comme ils se jettent sur le iPad et le iPhone et tous ces objets. C'est une bon. Alors, donc, l'époque de la nouvelle vague, du nouveau roman, de la nouvelle écriture, au Québec, probablement aussi du nouveau lyrisme et tout ça, je pense qu'il y a quelque chose là qui paraît... ne plus nous solliciter, nous accrocher. Bon, alors c'est sûr, de façon pas très étonnante, on a parlé beaucoup de ce qu'on pourrait qualifier d'un mauvais futur, un futur qui est porté par la flèche du temps dont Monique Proulx avait parlé au début, donc qui découle d'une accélération effrénée. Alors là, ça aboutit parfois au monstrueux ou au Minotaure dont Jean-Pierre Valoton a fait le portrait, ou bien la machine diabolique infernale dont Jan Richman a parlé, c'est-à-dire qui nous conduit vers une forme de désastre, bien que, comme Monique Proulx l'avait dit à sa conférence d'ouverture, on puisse être aussi fasciné par le désastre et l'apocalypse, indice peut-être d'un découragement collectif. Chose certaine, en tout cas, sans que ça aille toujours dans des représentations comme celle-là, il me semble qu'il y a eu très nettement beaucoup de manifestations d'inquiétude, d'angoisse, et là, je peux pas tout citer, mais Nathalie Filion a parlé d'une angoisse du futur, même Frédéric Garicomo, tout à l'heure, a parlé de l'aridité de ce marasme qui nous accable, et pourtant son propos était tout de même positif. Alors c'est sûr qu'à travers ça, il y a un procès très net de la modernité dans toutes ses conséquences. Alors, ce que je trouve intéressant, et je ne veux pas trop m'étendre là parce que vous êtes déjà sans doute fatigué, c'est ce qu'on a, ce qui est apparu comme... Je dirais pas des solutions, mais en tout cas des alternatives à ces inquiétudes, à ces angoisses, à ce sentiment de perte. Sûrement, une des choses qui me paraissent dégager, c'est un éloge du présent. Madeleine Gagnon a dit « Seul le présent, tel un cadeau, donne l'assurance infaillible d'être ». Jacques Kagan a dit « Il vaut mieux travailler à l'intérieur de nos limites, s'inscrire dans le présent ». Je pense que... Chez Diane Régimbald aussi, un présent de résistance qui est projeté à l'horizon de nos désirs. Donc, il y a eu
différentes formes d'éloges de ce présent-là. Mais très souvent aussi, me semble-t-il, une extension du présent, alors là, à autre chose. Alors, c'est sûr, la mémoire, on en a parlé beaucoup. Le futur de l'écriture est un futur de la mémoire, disait Anne-Hélène Clich. Nathalie Vatten, tout à l'heure, a repris tout à fait ce thème-là. La mémoire est quelque chose de prospectif qui ouvre sur l'avenir. Alors, ce lien entre mémoire et futur a été très, il me semble-t-il, assez récurrent dans un grand nombre d'interventions, et j'en vois aussi un écho dans la communication de Sylvia Castillero tout à l'heure. Mais il me semble qu'il y a autre chose aussi qui est apparue, et ça, c'est plus intangible, c'est-à-dire la nécessité non pas simplement d'évoquer la mémoire ou une sorte de temporalité globale, mais plutôt quelque chose d'autre qui est une sorte de hors-temps, qui est quelque chose d'irréductible à la temporalité, qui est peut-être une manière d'échapper à la flèche du temps, de la court-circuiter d'une manière ou d'une autre. Et ça, il me semble que ça prend plusieurs formes. Alors, la créativité spirituelle chez Monique Proulx, le rêve, l'infinitif. Alors, je pense à cette belle expression, le futur et le temps du rêve, après avoir vu le hors-temps de l'infinitif. Donc, il y a peut-être un rétablissement du temps au bout du compte, mais non sans être passé par quelque chose qui est son contraire, quelque chose qui est son, en tout cas, son ouverture. Et peut-être qu'il y avait ça aussi dans plus implicitement dans la communication d'Anne-Hélène Clich, dans ce désir, finalement, d'arrêter la narration, ou en tout cas de la rompre, de la briser quelque part, de l'interrompre, si on veut. Ce qui m'a frappé aussi, c'est que tout compte fait, malgré toutes nos désespérances et notre difficulté d'habiter le temps présent et surtout de concevoir le futur et un futur positif, quand même, plusieurs d'entre vous avaient exprimé de différentes manières une foi, une espérance dans le pouvoir de l'écriture et de l'art. Nathalie Filion, par exemple, disait à partir d'une citation, le futur est non écrit. Elle enchaîne tout de suite en disant « Cette phrase est à moi, concrètement, elle me donne le goût d'écrire. » Donc, un éloge de l'art, de la poésie, qu'on a entendu sous différentes modalités, qu'on a entendu, entre autres, aujourd'hui, je suis encore, chez Diane Régimbald et chez Frédéric Garicomo. Une confiance qui nous permet peut-être d'espérer que le futur va être autre chose que cette description qu'en donnait Jean-Pierre Valoton dans une de ses personnifications du temps ou de une des images qu'il utilisait, c'est-à-dire un autre futur que celui d'un présent qui s'effrite, qui n'est que de la poussière de passé balayée. Bon, alors il me semble qu'on est... Alors, cette foi est-elle, cette foi dans le pouvoir de l'art pour nous permettre d'entrer dans le futur, est-elle immodérée? Je pense pas. Nathalie Filion nous a dit au passage aussi que même la technologie, qui parfois nous paraît aliénante, peut être récupérée par la fiction. Mais pour terminer, je reviendrai à l'exposé d'ouverture de Madeleine Gagnon par une citation. Je voudrais citer un passage qui peut-être nous replace précisément dans cette confiance, cette foi en, malgré tout, contre toutes les certaines évidences, un certain pouvoir de l'art, de l'écriture. D'abord, cette citation, « Le futur est l'histoire de l'écriture ». Et ça continue ainsi. « L'écriture, chargée de passé, est l'histoire du futur, quel que soit le support sur lequel elle se déploiera, écorce de bouleau, papyrus, papier, parchemin, enluminé ou encore... support numérique et électronique. Ces moyens sont aléatoires. Ce qui compte, c'est ce qui se dira un jour et viendra donner sens et vérité au monde. Sens et vérité et beauté. » C'est le mot de la fin, beauté. Merci. Alors, j'ai quelques remerciements à faire et ensuite, je dois donner la parole à Hélène Dorion. Alors, bon, je vais remercier d'abord Mathieu Arsenault, grâce à qui... Alors, donc, grâce à qui nos propos seront diffusés dans les prochains jours, je crois, la semaine prochaine sur Internet, donc à Radio Spirale. Je remercie aussi, bien sûr, bon, si cet événement a lieu, c'est grâce au comité organisateur. Alors, là, je m'exclus, parce que je remercie Nicole Brossard, Denise Desautels, Hélène Dorion, Naïm Catan, qui font partie du comité. Mais, évidemment, la maître d'œuvre de cet événement, c'est d'abord et avant tout Louise Dupré. On y voit beaucoup. C'est un travail très soutenu qui s'étend sur toute l'année. C'est beaucoup de contacts, beaucoup de lettres à écrire, beaucoup de démarches. Et c'est très important.
Ce qui est intéressant, c'est que le mot de la fin de Madeleine, la beauté, c'est le mot aussi de la fin de la proposition que Louise nous a envoyée.
Ah, tu vois, je l'avais oublié.
C'est la beauté
bon.
Aussi.
Alors.
Peut-être vous dire aussi que Nicole Brossard m'a envoyé un courriel qu'elle dit qu'elle a été pendant tout ce temps avec nous par la pensée.
Où est-ce qu'elle est?
Elle était en Espagne, la pauvre.
Oui. Dans la région de Grenade. Grenade. Alors, voilà. Merci. Donc, Hélène Dorion.
Oui, pour dire la suite du programme, en fait, les événements qui vont clore la rencontre. Alors, ce soir, à 19h, donc, il y a un cocktail dans la salle qui nous est réservée. Ça va être suivi d'un dîner de clôture. Il y a une petite modification à l'horaire. Ce n'est pas 20h30, c'est 20h. Donc, de toute façon, vous serez ici à 19h pour le cocktail. Simplement pour vous dire aussi que se joindront à nous sans doute des membres de l'Académie, certainement des représentants d'organismes subventionnaires, évidemment. Là, je ne fais pas la pub, mais si nous existons, c'est grâce à, etc. Donc, ils ont la gentillesse de venir nous saluer et aussi, sans doute, des représentants de différents consulats qui nous permettent d'inviter les écrivains qui viennent d'un petit peu plus loin que Montréal. Alors, dans la salle qui nous est réservée pour 19h. Merci. À tout à l'heure.
Merci.